Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et nous allons maintenant retrouver Alexia Père. Alexia Père qui est psychologue, syndicaliste et qui travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Voilà, donc aujourd'hui notre émission, notre entretien n'a pas lieu en direct comme d'habitude, mais on est, donc c'est pas toi qui viens à la radio, c'est la radio qui vient chez toi, et on est dans les locaux du syndicat...
Du SNPES, Syndicat National des Professionnels de l'Éducation et du Social, PJJ, et qui appartient à la Fédération de la FSU.
Donc PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, donc... Tu es...
Je suis psychologue en unité d'hébergement diversifiée, c'est-à-dire une structure qui accueille des jeunes entre 15 et 21 ans qui sont placés soit en studio, soit en foyer de jeunes travailleurs, soit en famille d'accueil.
Mais pour la PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse.
Tout à fait. Des jeunes placés par des juges des enfants, oui, pour la PJJ. Et je suis aussi co-secrétaire nationale du SNPES PJJ.
Voilà. Donc tu vas nous parler maintenant surtout des enfants à la rue, des mineurs isolés étrangers ou des mineurs non accompagnés. Tout ça, c'est des jeux sémantiques qui parlent d'une seule et même réalité, mais qui la présentent sous un angle un petit peu différent. Donc, je sais que moi, je parlerais plutôt des enfants abandonnés par l'État à la rue, mais, qui sont délinquants ou qui ont été jugés, qui ont...
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'appellation officielle pour la PJJ, c'est mineur non accompagné. On en parle beaucoup ces derniers temps, puisque on dit qu'il y a un afflux de ces jeunes mineurs isolés et étrangers sur le territoire. Enfin, il faut quand même... moi, je ne parle pas d'afflux parce que je reprends les chiffres, mais ces jeunes représentent 8% des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et ils sont 25 000 présents sur le territoire. Et sur ces 25 000, en plus, il n'y en a que 12 000 qui sont passés par les structures d'évaluation de leur minorité et par la protection. Donc voilà, donc c'est pas un chiffre faramineux, mais c'est vrai qu'on en parle plus à la PJJ parce que ils arrivent plus chez nous, puisque l'aide sociale à l'enfance les prend pas tous en charge. Enfin, même de moins en moins, on va dire, en tout cas, et qu'il y a un défaut de protection. Et quand il y a un défaut de protection et qu'on se retrouve à la rue, il n'y a pas 10 000 solutions pour survivre. La plupart passent par une délinquance de survie, de toute manière.
Voilà, donc quand on dit qu'on a affaire à une jeunesse, qu'un jeune qui est à la rue, c'est un jeune qui est en danger, il y a aussi le danger de tomber... Je veux dire, si le gamin n'a aucun revenu, est à la rue, il est à la merci de n'importe quelle rencontre, voire de très mauvaises rencontres.
Tout à fait.
De trouver des solutions de survie qui ne sont pas forcément légales.
Bien sûr. Déjà, ces jeunes, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont connu un parcours d'exil très difficile. Ils ont subi, pour la plupart, beaucoup de violences et beaucoup nous disent de violences sexuelles aussi. Ils arrivent sur le territoire français et s'ils ne sont pas protégés, et à la rue, ils sont toujours effectivement victimes de trafic humain, ils subissent des violences et sexuelles, je le dis bien. Et pour certains, donc, dont d'autres ressources pour survivre que de devoir voler leur nourriture ou voler pour pouvoir payer des nuits d'hôtel.
Mmh. Voler ou dealer.
Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est ce que nous disent les jeunes, c'est qu'ils sont une proie facile. Certains nous disent aussi qu'ils ont été, qu'ils ont été approchés pour partir en Syrie, par exemple, pour commettre des attentats, être envoyés en Syrie. D'autres nous disent que oui, ça passe par le deal. Oui.
Et donc... On parle souvent donc des jeunes qui ne sont pas du tout pris en charge. À partir du moment où ils ont été jugés et où ils ont été condamnés, même s'ils n'étaient pas pris en charge, ils deviennent pris en charge.
Oui, C'est ça. Enfin, en tout cas, nous, effectivement, à la protection judiciaire de la jeunesse, ils arrivent parce qu'ils ont commis un délit. Ils ne sont pas encore jugés. Hein. Ils ont été déférés devant un juge des enfants qui va prendre une mesure de protection.
Mmh.
Et donc, à partir de là, effectivement, la plupart du temps, ils sont placés dans des foyers et suivis en milieu ouvert pour des mesures préjudiciaires, on va dire. C'est-à-dire en attendant le jugement.
Oui, donc mon introduction n'était pas très bonne, parce que je crois que tant qu'on n'a pas été déclaré coupable, on est innocent, donc ils sont soupçonnés, je suppose.
Oui. Enfin, après, ils vont être jugés, mais la justice des mineurs prend le temps de juger les mineurs, mmh. heureusement, ce qui leur permet d'évoluer positivement dans la plupart des situations, parce que je pense que les mineurs isolés étrangers, c'est une population en plus qui sont de jeunes très en demande d'aide et qui donc, une fois qu'ils sont rentrés dans le dispositif, sont des jeunes très attachants et qui vont venir nous demander une aide pour l'insertion, une aide psychologique aussi, parce que je répète, les parcours migratoires étant particulièrement difficiles pour les mineurs, quand ils arrivent, ils ont subi de nombreux traumatismes. Voilà. Et effectivement, d'avoir commis une peine peut leur permettre de ne pas être à la rue. Mais il y a... L'alternative, c'est que ces mineurs-là sont quand même discriminés pénalement et que plus que les autres, on va dire, pour les mêmes délits, ils vont être plus incarcérés qu'un jeune avec une famille et des papiers.
Ouais.
Bon, donc incarcéré, on va dire qu'il n'est plus à la rue non plus, mais c'est compliqué, parce que c'est effectivement, ils sont plus incarcérés, on va dire, en attendant le jugement. Donc effectivement, dans la période où ils sont normalement présumés innocents.
Présumés innocents. Et donc plus incarcérés, ils sont enfermés où
Dans les quartiers mineurs.
Ouais.
Donc pour les garçons, ça peut être n'importe quel quartier mineur. On va dire que pour les jeunes filles, ça va être Fleury-Mérogis, beaucoup. Ou une énorme partie de la population des jeunes filles incarcérées sont les jeunes filles roms.
Mmh.
Voilà.
Et donc, tu parlais déjà des troubles psychologiques, puisque tu es psychologue, donc des gamins. Il faut quand même rappeler que les gens qui arrivent en Méditerranée sont des survivants, surtout s'ils sont passés par la Libye, de la traversée de la Libye. Les gens qui vont arriver en Italie, le plus souvent, si on passe par la Méditerranée, sont eux-mêmes des survivants de la traversée. Donc, c'est des gamins qui sont des survivants. Il y a beaucoup qui meurent en passant. Et je crois qu'un des problèmes c'est justement le non-accueil qui rajoute un trouble et qui perturbe encore par-dessus.
Oui, bien sûr, oui, parce que ces jeunes-là, enfin, la loi dit qu'ils devraient être protégés, que forcément les traumatismes devraient être pris en compte, et ce n'est pas fait du tout. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'ils sont accueillis, qu'ils peuvent s'opposer, c'est là que, on va dire, la dépression arrive, que ces jeunes-là peuvent dire qu'ils revivent les situations de violence, de stress qu'ils ont vécu pendant la traversée, pendant le parcours. Parce que moi, tous ont pu me dire que, tous racontent la même chose. Ils ont vu des personnes mourir avant d'arriver. Et le fait de pouvoir se poser leur permet de s'autoriser à revivre ces scènes, à pouvoir en parler, mais on passe du coup par une phase où ils vont très mal.
Ouais.
Et ne pas les accueillir, forcément, parce que être à la rue, ça veut dire revivre. Ça veut dire pas, là, c'est pas le revivre psychiquement, ça veut dire que il y a de la violence qui s'ajoute à la violence vécue. Alors de la violence institutionnelle, parce que on prend pas en charge des jeunes dont on devrait s'occuper, dont la loi dit qu'on devrait s'occuper. Et puis la violence concrètement, quoi, pour ces jeunes-là.
Et de la violence concrètement, donc ça on en a parlé un tout petit peu à l'instant, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer de façon un peu concrète parmi les jeunes que tu as pu rencontrer
de ce qu'il raconte, donc là, alors déjà, la violence de la séparation, parce que forcément, ils ont quitté un pays, une famille, souvent même s'ils arrivent après le décès de parents, mais en tout cas, il y avait des personnes qui s'occupaient d'eux dans le pays qu'ils ont laissé derrière eux. Mmh. Ça, c'est déjà une première violence. Et la violence de personnes pour qui ils sont des cibles tellement faciles du fait de leur vulnérabilité d'adolescent. Et concrètement, comment ça se passe ? Des violences physiques, c'est certain. Des violences psychiques, parce qu'ils racontent c'est toute une période quand on est à la rue où on est tout le temps en alerte et où on a peur. Ils racontent, c'est ça, c'est la peur.
Ouais.
Et c'est la peur. Et alors moi, je suis étonnée aussi de voir, parce que toujours par rapport à ce discours comme quoi les mineurs non accompagnés sont si nombreux sur le territoire, moi je suis étonnée de voir comment ces jeunes-là, quand ils arrivent, ne connaissent pas leur droit à la protection.
Mmh.
Alors je sais qu'on dit que sûrement s'ils viennent en France, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont être protégés. Moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui restent délibérément à la rue, ayant peur d'être, étant arrivés clandestinement, d'être renvoyés dans leur pays. Et la loi protectrice, je veux dire qu'ils ne la connaissent pas. J'ai perdu le fil là.
Oui, mais c'est pas grave. Donc je te posais la question concrètement, comment se passaient ces situations de violence ? Et tu avais plein dans le fil.
De violence, oui. Où je dis, quand je disais ça, c'est que ayant tellement peur, c'est des jeunes en plus qui ne vont jamais porter plainte, qui sont vraiment tout seuls pour faire face à des adultes malveillants. Effectivement, des jeunes qui disent, on a approché pour commencer trafic de drogue, pour être dealer. Quelle alternative on a quand on est adolescent, je sais pas.
Oui, et d'ailleurs tu m'avais envoyé un très beau texte fait par écrit par un jeune manteau occupé qui raconte ça de façon claire et limpide.
Oui, tout à fait, qui raconte à quel point moralement ça lui a posé ça lui posait problème, comment il a tout essayé pour ne pas plonger dans ce trafic-là, comment il a essayé de s'adresser à plusieurs personnes qui pouvaient l'aider, mais qui ont pu l'aider sur un temps réduit, et comment après plusieurs jours à la rue, il s'est décidé à commettre, à commencer à dealer, et à quel point il était... Enfin, ça a été ça aussi pour lui une violence, parce que moralement, c'est quelque chose qu'il est réprouvé tout à fait.
Ouais. Et donc comme ça, il s'est fait attraper, il s'est retrouvé condamné.
Voilà. Alors, on va peut-être dire que sa chance a été qu'il se fasse attraper. Donc il s'est fait attraper en fait parce que le dealer qui le fournissait a été arrêté, et que donc lui aussi tous les sous-traitants ont aussi été arrêtés. Et ce jeune là Mohamed peut dire que ça constituait pour lui en gros une chance, parce que là il y croyait pas. Il pensait quand il a été arrêté, il pensait qu'il allait finir sa vie en prison, et que personne ne... et qu'en gros finalement c'était une bonne chose, parce qu'il en pouvait plus de vivre comme ça du deal. Et puis là, il a rencontré effectivement le tribunal, le juge des enfants, une éducatrice. Oui, il a découvert le système de protection de protection, parce que quand même la justice des mineurs, qui certes juge pénalement les jeunes, a surtout un devoir de protection envers eux, et doit juger les enfants comme des enfants qu'ils sont, et pas comme des adultes.
Mmh. Et donc en plus, ce texte que tu m'as envoyé montre très bien l'abîme et le désespoir du gamin quelques temps après son arrivée. Donc la première phase, où il y a la phase d'évaluation, donc déjà le temps qu'on trouve comment on va se faire évaluer, ce qui n'est pas immédiat. Mmh. Ensuite, la période d'évaluation et le refus de l'évaluation. Et là, c'est l'abîme.
Oui. Alors lui, a eu de la chance, puisque le test osseux a déterminé que de toute manière, il avait entre 15 et 16 ans. Donc voilà, on va dire que c'est aussi, ouais. c'est aussi une chance, même si on n'a pas beaucoup de reconnaissance de ces tests, enfin pas du tout même de reconnaissance de ces tests osseux, mais pour lui, voilà. Mais effectivement, il raconte comment, pendant son évaluation, la personne qui était en face de lui n'était pas très bienveillante, a remis en cause son récit de vie, a remis en cause ses papiers, l'a interrogé sur le fait qu'il parlait trop bien français pour être arrivé il n'y a pas longtemps sur le territoire. Et effectivement, ce jeune-là n'a pas compris, parce que c'est normalement une mesure de protection, cette évaluation.
Oui, et en plus, on remettait en cause, et si j'insiste pour ça, c'est vrai aussi pour les majeurs et pour les gens plus vieux, mais c'est, je suppose, d'autant plus grave pour des enfants qu'à un moment où on construit son identité, finalement, tu viens chercher, le gamin, il vient chercher une protection, et ce qui est supposé le protéger détruit son identité. C'est-à-dire qu'on va lui dire, mais tu parles trop bien français, donc tu viens pas d'arriver. Un gamin qui vient d'un pays francophone, qui a été élevé partiellement en français et qui a fait ses études, y compris le début de ses études secondaires, en français.
Oui, tout à fait. Donc, mais parce que c'est ça, cette évaluation ne prend pas le temps de connaître le jeune, de revenir vraiment sur son récit de vie, comme j'ai pu le faire avec lui, et le récit qui en ressort. Donc oui, et puis de toute manière, c'est la suspicion, c'est tout ce qu'ils nous le racontent, la suspicion à laquelle ils sont confrontés, de toute manière, quand ils sont face à ces instances sur Paris et sur le 93, c'est la Croix-Rouge chargée de les évaluer. Enfin, à croire que le but, c'est qu'un minimum de ces jeunes-là puissent bénéficier d'une prise en charge en tant que mineur. Voilà, et puis c'est aussi ce qui est compliqué avec cette situation, mais avec plein d'autres aussi, c'est que ces jeunes, quand ils commettent un délit, l'aide sociale à l'enfance, très vite, elle va essayer de les abandonner, c'est pas le mot, mais en tout cas de faire en sorte que la prise en charge ne soit plus que celle de la PJJ. Mmh. Alors que s'ils étaient pris en charge par l'ASE, cela leur garantit un titre de séjour à leur majorité.
Ouais.
Voilà, ce qui n'est pas le cas pour la PJJ. Donc c'est remettre une fois de plus ces jeunes en difficulté pour la suite. Et je dis ça parce que pour un jeune non étranger, non isolé sur le territoire, il peut arriver qu'il y ait une double prise en charge de l'aide sociale à l'enfance et de la PJJ.
Ouais. Donc normalement, si le gamin est arrivé, je crois, avant l'âge de 16 ans, de toute façon, la PJJ va s'occuper, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, s'occupe de sa régularisation. C'est, je crois, une régularisation de droit s'il a été pris en charge avant l'âge de 16 ans. Et donc, dès lors qu'il est pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, l'ASE ne s'occupe plus de...
Oui. Oui, parce que un peu toujours pour la même difficulté que l'aide sociale à l'enfance manque de places d'accueil, mais pas que pour les mineurs isolés étrangers, parce que je le répète, c'est 8% des jeunes pris en charge par l'ASE sont des mineurs isolés étrangers. Donc c'est un manque de places, donc on peut pas tous les accueillir, et donc si la PJJ s'en charge, très bien.
Et donc tu disais que les gamins étaient plus une fois qu'il y avait, enfin qu'ils avaient ou qu'ils étaient supposés avoir commis un délit, ils étaient beaucoup plus facilement enfermés.
Oui.
Et comment on justifie ça? Est-ce que c'est justifiable d'ailleurs?
Ah non, philosophiquement, moralement, politiquement, certainement pas. Alors on va dire qu'un jeune qui passe devant le juge des enfants, il a un éducateur et que cet éducateur va raconter un peu comment le jeune a pu évoluer favorablement, ce qu'il a pu mettre en place au niveau de son insertion, comment les liens familiaux peuvent aider ce jeune à s'en sortir, on va dire. Alors dans les cas des mineurs isolés étrangers, c'est plus compliqué, il n'y a plus de... Bah, il n'y a pas de parents déjà, et il y a eu moins de prise, enfin la prise en charge éducative s'est mise en place plus tardivement, donc c'est plus compliqué, surtout s'ils sont à la rue, de pouvoir prouver leur, de pouvoir témoigner de leur évolution. Et puis surtout, on va dire que c'est l'occasion aussi, quand ils passent devant le juge, quelquefois que leur minorité soit remise en cause.
Encore une fois.
Même s'ils sont suivis par un juge des enfants, du coup.
Et je suppose que c'est ce qui fait que Mohamed, dont tu m'avais communiqué le témoignage, a subi un test osseux alors qu'il avait déjà été exclu du dispositif suite à ses entretiens.
Oui. Je suppose que c'est pendant la phase d'évaluation, mais alors que il a subi cette phase d'évaluation, alors qu'il était déjà suivi par un juge des enfants, qu'il avait une mesure de contrôle judiciaire et une mesure de placement protection.
Et tu me parlais donc pour les jeunes filles incarcérées, c'est beaucoup de jeunes filles roms.
Oui. Oui. Alors, pourquoi sont-elles plus incarcérées ? Elles sont présententiellement, je veux dire, avant la peine. Quand je dis qu'elles sont plus que les autres, c'est avant la peine. Donc, elles vont être plus incarcérées parce qu'on va dire que si on ne les incarcère pas, en gros, elles vont disparaître ou elles vont récidiver. Mais surtout, elles vont disparaître, elles ne seront pas là au moment de leur jugement.
Donc c'est ce qu'on appelle ça des garanties de représentation.
Oui.
Le terme exact, c'est garantie de représentation ou représentativité.
Oui, alors je ne connais pas le terme exact, mais il y a cette idée-là derrière que, en gros, c'est le seul moyen de pouvoir les juger ou travailler avec elles-mêmes.
Mmh.
Voilà, donc ce sont souvent des jeunes filles qui ont des enfants en plus. En tout cas, moi, toutes celles que j'ai suivies, c'était la situation. Donc, c'était douloureux pour elles d'être séparées de leurs enfants en plus.
Ouais. Et donc, sinon, le parcours du gamin, donc une fois il a été arrêté, on attend le procès, il va être placé à la PJJ. Donc, soit en foyer, finalement, en milieu ouvert ou fermé ou incarcéré.
Oui, il a une mesure de milieu ouvert, ça c'est, ouais. c'est ça c'est obligatoire. Et normalement, il doit être placé, si on trouve une place, puisque ce mineur, le plus souvent, est à la rue, on va dire, s'il n'est pas déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, placé, donc, et il peut être incarcéré, effectivement, aussi, oui.
Mm. Ok, et après, donc, il y a le jugement. Et le jugement, est-ce qu'il est plus dur ou c'est équivalent pour des gamins, on dirait des jeunes français, enfin, ou est-ce que les peines sont plus lourdes, comment...
Alors, moi, je vais parler de ma place déjà, travaillant dans le 93, donc avec des juges des enfants, on va dire, qui sont peut-être un peu militants aussi. Et d'une part... parce que quand surtout M. Rosenweg était président du tribunal, il a beaucoup œuvré pour la protection des mineurs isolés étrangers. Il en reste quelque chose. Donc non, je ne pense pas qu'il soit jugé différemment. En tout cas, moi, je peux pas. J'ai pas constaté ça. J'ai même constaté, par exemple, le jeune dont nous parlions est une preuve vivante. C'est que il a été condamné à une peine, mais qui est une mesure de protection qui dure jusqu'à ses 21 ans.
Mmh.
Et on va dire que j'ai connu plusieurs jeunes dans cette situation-là, les juges des enfants leur donnent la possibilité d'être suivis jusqu'à leurs 21 ans, ce qui est maintenant une grande chance pour eux, parce que de plus en plus, et quand ils passent par l'aide sociale à l'enfance, les contrats jeunes majeurs ne sont plus accordés, c'est-à-dire après leur majorité. Donc on va dire que par la peine, qui certes peut être considérée comme une lourde peine, parce que ça veut dire que ce jeune-là a eu une peine de... protection, mais qui dure 5 ans.
Ouais.
Voilà. Mais cette peine lui permet, paradoxalement, ou pas paradoxalement, parce que c'est le principe de la justice des mineurs, d'être protégés et surtout de pouvoir être suivi jusqu'à ses 21 ans, ce qui est une chance pour lui par rapport à sa scolarité, par exemple. Voilà. Mais par contre, oui, c'est, alors là où je trouve où il y a une discrimination, c'est certains mineurs, quand ils sont jugés, où là, leur minorité étant remise en cause, vont être incarcérés chez les majeurs.
Ouais.
Et bah, là, du coup, ça veut dire ne plus être protégé du tout. Hein, parce que quand on se retrouve, même si on a 18 ans en quartier, enfin en prison avec les majeurs, on n'est pas protégé, hein, on ne sait pas se protéger. Le droit à la scolarité, c'est terminé, hein, plus de scolarité pour eux. L'accès aux soins est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est l'expérience que j'ai avec un jeune qui suivait un traitement psychiatrique très lourd. Avoir un rendez-vous avec un médecin psychiatre au quartier, enfin chez les adultes, c'est en prison, c'est compliqué.
Oui, parce que en plus il y a une des choses à laquelle j'avais pensé au début, enfin avant de venir te voir, et puis il me semble même qu'on en avait un tout petit peu parlé avant, c'est que il y a des jeunes qui sont mineurs mais qui sont déminorisés, qui sont déclarés majeurs. Donc ceux-là, tu ne les vois plus ou tu ne les reverras que s'ils sont redevenus mineurs.
Alors non, parce que c'est ce que je disais, nous on a la chance de pouvoir les suivre jusqu'à 21 ans.
Ouais.
Par exemple, le jeune dont on a parlé, il sera accueilli au sein de l'unité d'hébergement diversifié jusqu'à ses 21 ans. Et donc, si, alors, donc je ne vais pas prendre cet exemple-là, ça ne lui ferait pas du tout plaisir, mais ouais. Si, dans ce cas-là, nous, on a une mesure jusqu'à ses 21 ans, s'il est incarcéré, même si c'est en quartier majeur, nous, de toute manière, on va continuer à le suivre, et en tant que mineur, puisque nous, le juge des enfants, on a une ordonnance venant du tribunal pour enfants disant que ce jeune est mineur. Alors, peut-être juste évoquer, même si je suis sûre que d'autres personnes l'ont fait, mais le projet, le projet du gouvernement... de discriminer encore un peu plus les mineurs isolés étrangers en confiant la phase d'évaluation de leur minorité à l'État, et c'est-à-dire plus du tout aux conseils généraux et à la protection de l'enfance. Voilà, ça c'est dangereux, on est vraiment contre parce qu'il y a tellement d'attaques qui sont faites contre ces jeunes-là. La loi n'est jamais respectée pour eux. Alors, je vais nuancer, jamais respectée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, en tout cas, il y a souvent la loi n'est pas appliquée les concernant pour leur protection. Mmh. Et donc là, en faire encore un peu plus des étrangers plutôt que des adolescents vulnérables, c'est une fois de plus les regarder comme des personnes indésirables, on va dire. Parce que c'est ce qui m'apparaît dans cet accueil. Enfin, la France n'est plus un pays d'accueil, je veux dire, pour ces... pour les réfugiés en général, de toute manière, mais pour ces mineurs isolés étrangers. Donc ce serait... Voilà, donc nous... Ce n'est encore qu'une annonce de projet. On ne sait pas non plus à quel ministère cette évaluation serait confiée. Mais c'est un grand risque qu'une fois de plus, on les considère comme des étrangers avant de les considérer comme des enfants.
Oui, c'est bien le problème. Un enfant à la rue, un enfant abandonné, c'est un enfant abandonné. Et on ne va pas forcément lier au fait qu'il soit étranger. Un mineur non accompagné... ou un mineur isolé étranger, ça devient... ça raconte une autre histoire, quoi.
Oui, c'est ça. Ça devient un étranger et on va toujours être suspicieux sur les raisons pour lesquelles il est ici et sur le fait qu'il puisse rester. Mais peut-être pour finir, j'ai bien envie de lire les dernières lignes de Mohamed. Qu'il a écrit, puisque donc cet écrit, c'est pour verser au dossier de son titre de séjour, puisqu'il va devenir majeur bientôt. Et donc il nous dit pourquoi il veut rester ici, en gros.
Ouais.
Donc je lis. Je demande aujourd'hui un titre de séjour parce que j'imagine mon avenir en France et que j'ai besoin de papiers pour pouvoir continuer à y vivre, à avoir une scolarité et pouvoir travailler. Travailler en France, pour moi, ça veut dire que je pourrais payer mes impôts et ensuite financer ma dette pour tout ce que la France a fait pour moi en m'accueillant. Ainsi, mes impôts permettront ensuite d'aider les autres, ce qui est important pour moi. Je veux vivre en France parce que j'aime la culture française. Je l'ai dans mon sang. Je suis née et j'ai grandi avec cette culture-là. J'aime ce pays, même si pas tellement son système. Je n'imagine pas retourner vivre au Sénégal parce que j'ai construit un avenir et des attaches ici. Je ne pourrai plus aller vivre ailleurs. Mon projet, c'est de m'installer en France, de devenir ingénieur dans la sécurité informatique, de fonder une famille et de faire de la politique. Et puis, je pense que je mérite tout à fait d'obtenir mon titre de séjour et de devenir français parce que je me sens tellement intégrée que je mange du fromage en écoutant Édith Piaf ou Claude François.
Eh bien, merci beaucoup Alexia, et puis j'espère que bientôt on recevra Mohamed en direct dans le studio.
Je pense que ça lui ferait très plaisir.
Voilà, eh bien merci beaucoup Alexia, et puis à très bientôt.